L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble avec nos experts l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser aux livres. Nous vous proposons une édition spéciale Librairie du Patrimoine. On va parler d'investissement dans le durable, dans le climat. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle personnelle, à l'échelle de la famille? On va également parler des bâtiments qui sont en train de se transformer, comment former les ingénieurs de demain, ceux qui vont concevoir ces bâtiments, c'est l'enjeu, eh bien plutôt ce qui est décrit dans deux bouquins formidables. On a le plaisir d'accueillir Pascal Bossan. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Dirigeante de Bossan Conseil administratrice. Bossan Conseil, ça c'est votre cabinet en gestion de patrimoine. Vous êtes administratrice du 1% Fort de Planète et vous venez de publier aux éditions La Plage.
Oui.
Ça ne s'invente pas, ça. La Plage, agir pour le climat en famille, après un premier opus, c'est ça, hein, où c'était...
Qui était dédié à l'entreprise, absolument.
Voilà, l'entreprise, les petits gestes en entreprise qu'on peut faire pour améliorer, et effectivement, et agir pour le climat. Eh bien, cette fois, on va voir avec vous comment agir en famille. À vos côtés, Jean Carassus. Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, et vous avez fait un livre, alors beaucoup plus épais, qui vient de sortir également, immobilier et bâtiment durable, hein, l'idée de voilà, comment transformer pour les professionnels leur pratique pour faire de l'immobilier, mais cette fois durable. Et c'est un ouvrage que vous n'avez pas écrit tout seul, c'est avec votre collègue et confrère.
Oui, avec Dominique Naert, c'est un ouvrage que j'ai piloté avec lui, avec une douzaine d'auteurs et dont le contenu s'inspire beaucoup d'un master spécialisé de l'École des ponts et chaussées dédié à la réussite de la transition carbone et numérique qui est le sous-titre du livre. Mmh. Donc, il y a une douzaine d'auteurs qui sont des responsables de semaine de ce master et il y a une cinquantaine d'experts qui contribuent en quelques pages chacun à fabriquer ce travail. Comment transformer la filière bâtiment.
Alors justement, on va aborder tous ces sujets avec nos deux invités. La librairie du patrimoine, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On démarre avec vous, Pascal Bossan, agir pour le climat en famille. Alors voilà, on va, avant de passer sur le côté professionnel, regarder déjà ce qu'on peut faire à notre échelle, voilà, la cellule familiale. Il y a plein de petits gestes au quotidien qui sont possibles, qui est possible pour tout un chacun finalement de faire pour agir sur le climat avant de rentrer dans le vif du sujet et peut-être d'en décrire certains. Je voulais savoir déjà votre état d'esprit et le but. On sait que vous êtes très attaché à ces questions climatiques, environnementales, dans votre pratique de conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi ce livre, Pascal ?
Alors en fait, c'est une idée de la maison d'édition, qui est la maison d'édition La Plage est une filiale du groupe Hachette. Ils n'avaient pas ce type d'ouvrage généraliste, boîte à outils dans leur catalogue et ils m'ont proposé d'écrire ce livre. Et j'ai accepté avec plaisir. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est pas tellement les éco-gestes, mais beaucoup plus des témoignages d'entrepreneurs, de start-up, de PME qui se battent pour le Made in France, mmh. pour l'éco-conception. Et donc il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs dans ce livre. Et ce livre, il a été construit comme un parcours dans la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma cuisine pour le climat ou l'environnement? Qu'est-ce que je peux faire dans mon bureau? La thématique du numérique responsable, c'est une grosse thématique. Qu'est-ce que je peux faire pour mes loisirs et pour mon épargne, bien sûr, qui est un chapitre forcément qui me tient à cœur, vu mon activité de conseil en gestion de patrimoine.
Ben voilà, justement, on va pas parcourir toutes les pièces, on va se focaliser évidemment sur l'épargne. Néanmoins, tiens, dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de produits qu'on utilise, hein, notamment vous, mesdames. Il y a des petits gestes comme ça au quotidien qu'on peut faire pour réduire son empreinte carbone ou préserver la planète?
Bien sûr, essayer d'avoir un peu plus de produits solides plutôt que des produits liquides, en fait, mmh. où on transporte de l'eau, finalement. Donc, réduire les emballages. Donc là, voilà, il y a une grosse démarche à faire de ce côté-là. Peut-être juste un petit mot sur le livre. Je donne mes droits d'auteur à une association. C'est important pour moi que ce soit un projet de partage, un projet altruiste. Donc je donne 100% de mes droits d'auteur à l'association Little Citizens for Climate, qui est une petite association qui aide les jeunes de 9 à 19 ans à porter des projets environnementaux. Et ce livre, il coûte 12,50 € et il a été imprimé en France.
Imprimé en France, donc n'hésitez pas à l'acheter, évidemment, ça partira effectivement à l'association Little Citizen for Climate, association française qui valorise et accompagne l'engagement de la jeunesse autour des préoccupations environnementales. C'est vrai qu'on a de plus en plus, Pascal, la pression de nos ados, des plus jeunes, pour dire « attention, tu fais couler trop le robinet », etc. Ils sont très très conscients maintenant de nos jeunes, et c'est tant mieux. Ça veut dire que demain aussi, on sera... Alors il faut qu'on soit de plus en plus sensible à ces questions, bien évidemment, et on va le voir dans un instant, ça passe par l'épargne. Mais en tout cas, bah oui, ce petit ouvrage, il est facile à lire. Il fait quoi ? Une bonne centaine de pages. Vous l'avez écrit pendant le confinement.
Voilà. Les périodes de couvre-feu et de confinement ont été mises à profit pour l'écriture.
Ouais, et c'est très bien. Voilà. Agir pour le climat. Alors, on va y revenir dans quelques instants pour la partie effectivement épargne et finances. Jean Carassus, alors vous, professeur École nationale Ponts et Chaussées, livre beaucoup plus formel, on va dire, immobilier et bâtiment durable. Là aussi, alors vous travaillez là-dessus avec des professionnels, on le dit à Ponts et Chaussées, ce ne sont pas des étudiants qui sortent du bac ou avec une première année de fac, c'est plutôt des professionnels qui veulent aller un pas plus loin, justement, dans le durable. Expliquez-nous.
Oui, la majorité des élèves, entre guillemets, sont des cadres confirmés, hommes et femmes de toute la filière. Il y a des industriels, des promoteurs, des architectes, des gestionnaires, des entrepreneurs. Et ils veulent effectivement transformer en profondeur leur pratique professionnelle. Parce que l'immobilier durable, il y a beaucoup de greenwashing dans l'immobilier, et il y a beaucoup d'opérations exemplaires, mais sans lendemain, qui ne sont pas représentatives de la pratique réelle des professionnels. Et donc, nous, on vise effectivement à transformer en profondeur. La première partie du livre, c'est leur donner des éléments. Un livre donc écrit par des professionnels qui s'adresse à des professionnels, des éléments sur la révolution digitale actuelle et la neutralité carbone, sur quartier et ville durable, sur comportement et usage, et donc on va converger avec Pascal sur ce chapitre-là, sur le financement, donc là on rejoint les problèmes d'épargne, et sur la gestion de parc immobilier pour ceux qui ont un parc immobilier dans les professionnels. Et puis la deuxième partie, on rentre dans le concret du bâtiment, c'est-à-dire le management de projet d'un bâtiment, le programme, la conception, la réalisation, l'exploitation. Comment transformer en profondeur ces pratiques professionnelles pour que l'immeuble soit décarboné, frugal en ressources et respecte la biodiversité.
Mmh. On sait qu'en plus, le bâtiment, c'est un des principes émetteurs de gaz à effet de serre entre la construction mais également l'exploitation.
Absolument. Du point de vue énergie, c'est 45% de l'énergie consommée en France. C'est énorme. Et du point de vue gaz à effet de serre, quand on ajoute, comme vous dites, les bâtiments existants plus la partie émise par le secteur de l'énergie et mais qui est consommée dans le bâtiment, parce que le bâtiment souvent n'est pas assez bien isolé. Et puis bien sûr, tout le carbone et l'énergie qui sont contenus dans les matériaux de construction, on arrive à pratiquement 30% des gaz à effet de serre juste après les transports, c'est le bâtiment.
Avec chauffage en été, chauffage en hiver, climatisation l'été, encore malheureusement trop de bâtiments éclairés la nuit, on ne sait pas trop pourquoi. Tout le monde ne travaille pas la nuit. C'était des petits conseils d'ailleurs, Pascal, que vous aviez donné ça dans votre dernier livre, justement ce qu'on peut faire en entreprise. On s'étonne toujours qu'on finalement on ne gère pas ces bâtiments et les grands bailleurs ou les grands responsables de property management, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire en se disant, on dit bien à nos enfants, voilà, éteins la lumière, c'est pas Versailles.
Bien sûr,
pourquoi on ne le fait pas en entreprise ?
Oui, bien sûr, au niveau de l'entreprise, il y a effectivement beaucoup de comportement du quotidien à améliorer. Et par exemple, sur le sujet de la consommation d'électricité, pour le chauffage, un degré de chauffage en moins, c'est 7% de consommation énergétique en moins et 7% du coup sur la facture en moins.
C'est vrai. L'idée, Jean Carassus, c'est évidemment de ne pas donner des tips, mais vraiment de former les gens pour que, par exemple, on va revenir en arrière avant l'exploitation, que dans la conception même du bâtiment, on peut faire énormément d'économies. Alors, on a des réglementations thermiques qui sont devenues énergétiques, donc qui sont beaucoup plus draconiennes maintenant dans la construction des bâtiments. Ça s'applique également aux nouveaux bâtiments. Là, il faut construire durable, il faut passer un cap.
Il faut construire et il faut rénover durable, hein, parce que il y a un gros enjeu aussi au niveau de la rénovation du parc existant. Et là, effectivement, ça nécessite de revoir tout. Il faut des indicateurs, il faut mesurer. Hein, la différence entre le greenwashing et le véritable durable, c'est mesurable, vérifiable et reportable. Les vrais professionnels qui travaillent sur le durable, ils mesurent d'abord. Ils mesurent leur empreinte carbone, ils mesurent toute une série d'éléments, consommation d'eau, consommation d'énergie, etc. C'est pas de l'auto-proclamé, c'est vérifiable par des gens extérieurs. Et puis c'est reportable, c'est-à-dire dans leur rapport annuel d'entrepreneur, eh bien ils s'engagent, ils disent voilà, je suis à tel résultat, c'est vérifiable par quelqu'un d'extérieur, et moi j'ai d'ici 2030 tel ou tel objectif. Là on est dans une démarche sérieuse. Et à partir d'un indicateur fort comme par exemple l'empreinte carbone de l'entreprise, eh bien on rentre dans le détail, comme vous le dites. Dans la conception de la rénovation ou de la construction neuve, on a un bâtiment beaucoup plus frugal, on a un bâtiment qui utilise moins de matériaux carbonés, et puis on l'exploite de façon différente. Mmh. Et c'est très détaillé. Et quand on mesure, effectivement, là, on sort de l'opération exemplaire pour la direction du marketing, et on est vraiment sur la transformation des pratiques professionnelles avec des conséquences pratiques sur le climat.
J'ai une question pour vos élèves, vous le disiez, hein, des professionnels chevronnés, qui veulent passer un cap, ils le font par nécessité ou par opportunisme ?
Ça dépend.
D'accord.
La réponse n'est pas unique. On a des populations très diversifiées. On a des directions d'entreprises ou de secteurs publics qui envoient des cadres. Là. On a par exemple un partenariat très fort avec le ministère des Armées. Ils ont un très gros service d'infrastructure de la défense de 7000 personnes qui gèrent tout le patrimoine des infrastructures dans le monde entier des armées françaises. Et ne serait-ce qu'en France, ils possèdent 40% du patrimoine de l'État. Tout seul. Donc là, c'est une politique vraiment de ce ministère. Ils veulent vraiment être dans la problématique de l'État exemplaire. Ils disposent de moyens financiers non négligeables. Et ils ont compris que s'ils augmentaient la compétence de leurs responsables, nous on vient d'avoir le premier qui est passé colonel et qui est diplômé de ce master, eh bien à Brest, c'est un homme qui gère 2 millions de mètres carrés. Avec plus de 300 personnes sous sa responsabilité. Et il m'a envoyé un email récemment en me disant « Jean, tu sais, on va appliquer les trucs du master là, sur 2 millions de mètres carrés. »
2 millions de mètres carrés d'un coup.
Oui, d'un coup. Un seul homme, un colonel basé à Brest, il est responsable de 2 millions de mètres carrés. Donc, effectivement, là, il a les moyens de mettre en œuvre avec ses 300 collaborateurs ce qu'on lui a appris dans le master.
Alors, on ne va pas tout déconstruire ou démolir pour rebâtir. Souvent, vous le disiez aussi, c'est un enjeu de rénovation, notamment oui. Les 2 millions de mètres carrés ou le patrimoine de l'État.
Oui.
Y a un énorme enjeu, puisque c'est souvent en plus des bâtiments patrimonial assez anciens.
Oui, alors effectivement, il y a un enjeu. On ne cache pas que c'est complexe. Hein. Mm-hmm. Les gens qui disent la transition énergétique, c'est yaka. Non, c'est d'une grande complexité. C'est pour ça qu'il faut être calme, mesuré, vérifier, etc. Parce que là, on est dans le sérieux. Et c'est complexe parce qu'il y a à la fois des nouvelles constructions, il y a à la fois des rénovations. Et c'est très important de ne pas opposer ce point de vue de l'utilisateur et le point de vue du professionnel. On dit clairement, nous, si l'utilisateur, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les écoles, si l'utilisateur n'est pas associé, ce que font les ingénieurs et les architectes ou les financiers avant, risque d'être à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ne correspondent pas à leur mode de vie. On a vu les premiers bâtiments en haute qualité environnementale avec des automatismes sur les volets, sur le truc. C'est pas eux qui maîtrisaient. Et du coup, les utilisateurs des bureaux, de ces premiers bureaux, qui voulaient faire le bien, les concepteurs voulaient faire le bien, ils ont commencé à neutraliser les automatismes, etc. Parce qu'ils n'avaient pas envie que ça soit là une machine qui baisse les rideaux. C'est eux qui baissent les rideaux quand ils en ont envie. Donc, on voit bien que impliquer les utilisateurs est absolument fondamental. Et comme le dit Pascal, au sein de ces bâtiments, eh bien, il faut aussi changer son mode de vie dans le bâtiment.
Oui, ouais, tout à fait. Avec, vous l'évoquez, c'est pas anecdotique, mais c'est vrai que sur la chaleur, par exemple, on n'a pas le même ressenti. Et effectivement, dans un même bâtiment, entre celui qui va être près de la fenêtre ou celui qui va être plus à l'intérieur du bureau, il n'y aura pas les mêmes niveaux de chaleur. Et ce n'est pas évident à gérer. Hein. Comment on peut résoudre ça? Tiens, vous avez un truc, Pascal, pour baisser un degré. Bon, c'est mettre un pull, quoi, finalement. Non, c'est pas
exactement.
Trop simple que ça.
Oui, exactement. Je pense que c'est important, de manière générale, qu'il y ait quand même un consensus. Évidemment, si on essaie d'y aller trop au forcing, dans les pratiques managériales, je l'ai vécu, ça fonctionne pas très bien. Donc, il faut y aller doucement mais fermement, bien sûr. Il faut essayer de faire passer un consensus responsable et surtout avoir une démarche collective.
Alors, dans un instant, on va s'intéresser justement à notre épargne aussi, hein, comment on peut agir pour le climat avec son argent. On sait que les Français sont de plus en plus appétants, en tout cas, à faire le bien avec leur épargne. En plus de l'épargne, il y en a beaucoup. On en parle dans un instant, juste après notre première pause musicale. À tout de suite.
Oula, où j'envoie ces lettres? Faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. J'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon. De penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais relever. Avancer sera sans baisse, sans flancher en jambe, et le chantier des pensées. Semblait emmêlé, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter tant comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Voilà, on vient d'écouter Ben Mazué sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance. sur Radio Patrimoine.
Une émission spéciale Grande Librairie du Patrimoine. On s'intéresse au climat, Agir pour le climat en famille. C'est le dernier livre de Pascal Bossan qui est avec nous. Et puis Immobilier bâtiment durable dans un autre registre tout aussi intéressant avec Jean Carassus, professeur École nationale des ponts et chaussées. Pascal, on a besoin de vos lumières pour savoir si notre épargne a une empreinte carbone et comment la mesurer.
Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on sait peu, mais effectivement, l'épargne, de manière générale, peut avoir une empreinte carbone tout à fait importante.
Alors, expliquez-nous, ça veut dire les sous qu'on a à la banque, ils polluent la planète ou du moins, ils n'ont pas le même poids.
En fait, lorsqu'on détient 3000 euros sur un compte courant classique d'une grande banque française, sur un an, c'est à peu près l'équivalent à un aller-retour Paris-New York en termes d'empreinte carbone. Pourquoi ? Alors évidemment, c'est une empreinte indirecte, mais pourquoi ? Tout simplement parce que les banques, en fait, financent avec notre épargne sur les comptes courants de manière massive les énergies fossiles. Évidemment, s'intéresser au placement de son épargne, c'est un impact extrêmement fort sur le climat. Donc, le premier point, c'est déjà de bien choisir ses banques courantes. Il y a des banques qui excluent de leur fonctionnement le financement des énergies fossiles. Donc, ça, c'est pour la partie fonctionnement courant. Mmh. Et puis ensuite, on a toute la partie épargne plus long terme, où là, on peut tout à fait choisir des investissements fléchés qui vont délibérément, de manière volontaire, pouvoir agir pour la transition écologique.
Transition écologique, ça énergétique. Veut dire exclure en même temps justement ces fameux placements sur l'ancienne économie carbonée.
Alors voilà, essayer. Alors en fait, c'est un sujet qui n'est pas si simple, parce que si on exclut tous les mauvais élèves, on peut faire un portefeuille uniquement avec des sociétés de services et finalement on ne va pas tellement accompagner la transition. Donc on doit aussi accompagner les mauvais élèves dans la transition et les pousser, les inciter à aller plus loin dans leurs actions. Après, on peut aller quand même jusqu'à une certaine limite, par exemple des portefeuilles avec avec les grands pétroliers. C'est assez difficile à faire passer auprès du grand public, ils ont du mal ce que je comprends tout à fait,
transition.
Voilà, il y a des limites à ne pas franchir.
Ouais, ouais, parce que les grands pétroliers, comme les autres, ils sont sensibles également, ils savent de toute façon qu'ils vont devoir rebalancer leur mix énergétique, comme on dit, mais en attendant, on l'a vu.
Pour l'instant, malheureusement, ça va trop lentement.
Ça va lentement, et puis ça pose d'autres problèmes, on l'a vu avec le pouvoir d'achat et cette flambée des énergies en ce moment. C'est intéressant ce que dit Pascal, Jean, parce que vous avez fait ce test, vous avez coécrit votre livre à plusieurs mains, et vous avez fait le test justement sur chacun des auteurs, votre empreinte, vous avez eu votre empreinte écologique. Vous avez eu des surprises ?
Oui, effectivement, c'est dans un article qui a été publié dans Réflexion immobilière. Nous étions plusieurs spécialistes de l'immobilier et on a intitulé notre article « De la norme à l'engagement ». C'est-à-dire, on parlait sans arrêt des normes, vous parliez des réglementations thermiques et environnementales appliquées aux bâtiments, mais on s'est dit, c'est bien, on est des professionnels qui essayons de transformer nos professions, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, à titre personnel ? Et donc, on a mesuré, avec un logiciel gratuit sur Internet, notre empreinte. Alors certains étaient très performants, ils avaient une maison très performante.
En moyenne, juste combien on dépense ? Chacun d'entre nous ?
Pascal, je crois que c'est autour de 11 tonnes.
Tonnes de CO2.
Au niveau de l'empreinte. Le vrai chiffre, c'est l'empreinte et c'est pas les émissions. Parce que les émissions, c'est uniquement sur le territoire. Donc quand vous faites fabriquer votre smartphone en Chine, c'est compté émissions chinoises. Donc il faut compter l'empreinte, c'est-à-dire avec tous les produits importés. Et avec tous les produits importés, on est à 11 tonnes par personne et par an en France, en moyenne. Et moi, je me suis aperçu que j'étais un peu au-dessus de 11 tonnes.
Voilà, vous aviez un collègue.
J'avais un collègue qui était à 7-8 tonnes, qui était très performant. J'en avais un autre qui était à 20 tonnes, parce qu'il voyageait beaucoup, notamment avec l'avion. Et alors donc, on voit bien, avec ce type de logiciel, l'utilisation de l'avion. On voit bien l'alimentation. En particulier la partie carnée de l'alimentation. On voit bien l'épargne, une épargne dans un investissement responsable émet beaucoup moins qu'une épargne ordinaire, y compris les unités de compte de l'assurance vie. Il faudrait regarder, ça doit financer globalement, ce sont des obligations qui financent massivement une économie carbonée. Donc on voit bien les possibilités d'amélioration. Mon chauffage, j'ai encore un chauffage au gaz, même si j'avais été subventionné à l'époque pour cette chaudière performante. Aujourd'hui, c'est du gaz fossile. Et faire du décarboné avec du gaz fossile, on ne sait pas faire.
Extrêmement intéressant. Hein. C'est vrai qu'on peut, comme ça, tous prendre notre pouls et cette empreinte. Vous l'avez fait, vous, Pascal? C'est en amélioration continue?
Oui, tout à fait. J'étais un peu moins de 10. On a effectivement.
Oui, mais attendez, parce que est-ce que l'année Covid compte quand on ne peut pas voyager du tout? On est obligé de prendre sa voiture ou le train pour aller dans le sud de la France pour les vacances, par exemple, ou dans le nord pour ceux qui sont dans le sud. Mais ça dépend, ça aussi, c'est vrai.
Bien sûr. Après, de manière générale, je pense que ce qui compte, c'est la trajectoire qu'on prend, hein, c'est le chemin qu'on emprunte pour essayer quand même de modifier nos habitudes et puis d'avoir conscience finalement des grands postes. Pour revenir sur le sujet du calcul de l'emprunt de carbone, j'en parle dans mon livre, je cite l'application Rift, qui est une application assez récente, qui est dédiée à la mesure de l'empreinte carbone de son épargne.
D'accord.
Donc là, ça peut être intéressant de screener son patrimoine financier pour avoir une idée, finalement, de l'impact indirect de son épargne.
D'accord, on mettra le lien Rift, R-I-F-T, l'appli pour suivre l'impact carbone de votre épargne. Et on vous demande donc de rentrer vos différents placements, j'imagine. Et puis, on vous dit même... En plus de l'épargne, alors c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'épargne en ce moment, hein, parce qu'on aurait économisé collectivement en France près de 200 milliards. Il y a eu évidemment des mécanismes d'aide, hein, ce fameux quoi qu'il en coûte, qui coûte finalement, mais qui nous a permis de passer le cap, tant mieux, ça redémarre très fort. Les Français sont fourmis de manière naturelle, et là, encore plus d'épargne, ça veut dire peut-être un temps idéal pour réorienter finalement vers des placements plus verts.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous on le voit au quotidien, on a de plus en plus une demande spontanée de la part des clients. Et puis, on n'hésite pas à être aussi force de proposition pour essayer justement de flécher différemment, d'orienter différemment les placements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une nouvelle gouvernance du label ISR qui a été mise en place.
L'investissement socialement responsable.
Exactement, oui. Merci pour cette précision. Et j'ai le privilège de faire partie de ce comité du label donc d'investissement responsable renouvelé. Mmh. Et l'objectif, c'est d'améliorer les choses autour de ce label, de donner encore plus de lisibilité, de transparence à l'épargnant, et puis d'améliorer encore la notoriété de l'investissement responsable.
Voilà, notre ami Pascal qui va aller donc tous les deux mois, c'est ça, à Bercy,
ouais.
Apporter ses lumières, essayer de mieux flécher l'épargne grâce à ces investissements socialement responsables. Jean, alors bon, évidemment, améliorer la trajectoire est importante, on l'a dit. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau des bâtiments, comme vous nous l'écriviez tout à l'heure, là, on peut faire évidemment beaucoup. Est-ce que vous avez parlé de greenwashing? Alors, tiens, je connais le terme en français. C'est l'éco-blanchiment.
Absolument.
Vous savez, voilà, je le cite, c'est intéressant. Cet éco-blanchiment, aujourd'hui, on voit dans l'épargne, on a passé le cap. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques sociétés qui surfaient sur la vague, qui disaient, voilà, on lave plus vert que vert, ou on épargne plus vert. Là, maintenant, on a passé un cap, parce que dans le bâtiment aussi, ça y est, on a pris conscience des enjeux, on ne peut plus se cacher derrière des grands mots marketing.
Le mouvement est parti, effectivement. Ça bouge, mais il portait bien son nom, l'immobilier. Hein. Il a longtemps été immobile. Mmh. Et ça bouge. C'est une affaire de génération. Là, vous parliez des jeunes que vous soutenez. C'est une affaire de génération. Les personnes, qui sont souvent en plus des hommes, peut-être moins sensibles, de 60-65 ans, qui dirigent les entreprises, sont beaucoup moins sensibles que les 35-40 ans, qui sont eux-mêmes moins sensibles que les 20-25 ans qui vont arriver ultérieurement. Donc c'est une affaire de génération, on le sent dans tous les métiers, que ce soit les dirigeants de grandes entreprises ou chez l'artisan. On sent bien. Mais ce que je voulais dire également par rapport au placement, à l'épargne, il y a bien sûr une partie importante qui est un placement en immobilier. que vous soyez propriétaire occupant, oui, ou que vous soyez propriétaire bailleur, ou que vous ayez des actions d'une société qui investit dans l'immobilier. Là, ce qui est en train de bouger, c'est qu'il y a un mécanisme d'obsolescence pour les bâtiments non verts, qui commence à apparaître. Il y a cette notion de valeur verte. Quand le marché immobilier n'est pas tendu, effectivement, si vous êtes sur Paris ou Londres, etc., dans le centre, les gens veulent la localisation, tant pis si c'est pas très vert. Par contre, quand vous êtes dans un marché détendu, c'est-à-dire la majorité des marchés immobiliers en France, en maison individuelle, par exemple, dans un grand nombre de régions, eh bien, si vous avez un diagnostic de performance environnementale, enfin énergique et environnementale, dans les catégories F et G, les notaires, puisque c'est sérieux, c'est à partir des prix réels, les notaires ont montré que les bâtiments qui sont avec un diagnostic C, voire A et B, pour la minorité la plus performante, ont une valeur plus élevée. Mmh. C'est vendu 10%. Les autres, là, les épaves thermiques sont vendues, toute comparaison par ailleurs, hein, sont vendues 10 ou 15%. Et le Parlement, le législateur s'en mêle, puisqu'il dit que les logements de catégorie G, eh bien, s'il n'y a pas des travaux de fait, on ne pourra plus les louer à partir de 2025. Et puis après, ça sera...
2025, 2026, 2028, 2034.
Il y a un calendrier, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des bâtiments qui sont de la mauvaise épargne. Du mauvais placement. Et donc, ça pousse effectivement les propriétaires à, quand ils en ont les moyens. Et donc, il y a tout le problème de l'aide, effectivement.
Ah, mais pour faire le lien, ça veut dire que dans son épargne, qui effectivement, je parle à conseiller en gestion de patrimoine, patrimoine souvent, c'est quoi? C'est de l'immobilier et des valeurs mobilières. Hein, mais une grande partie, c'est de l'immobilier. Et puis, là, le patrimoine des gens, à 66%, je crois, c'est beaucoup d'immobilier en France. On est très attaché à la pierre. Attention, ça peut aussi, non seulement il faut en mesurer, comme on l'a fait pour nos placements, finalement, ce que ça consomme. Et puis, demain, effectivement, essayer de l'améliorer avec toutes les problématiques que ça engendre, notamment un fameux DPE qui a eu des petits couacs, ce nouveau DPE.
Oui, oui,
c'est en train de se résoudre.
C'est en train de se résoudre. Voilà.
Attention, néanmoins, il y a des études très sérieuses. Effectivement, un F ou G, on perd de 6 à 18 000 euros sur un bien moyen, 250 000 euros. Donc, c'est quand même pas neutre hein, pour celui qui a ce patrimoine.
Oui, il y a une notion de risque lié au climat. Mmh. C'est ça l'importance de la finance. La finance a commencé à prendre conscience quand on investit, on prend un risque si on ne tient pas compte du climat. Et donc, effectivement, c'est vrai pour les investisseurs professionnels et c'est vrai pour les particuliers. Mmh. Ils prennent des risques s'ils achètent une maison F et G.
Eh bien, attention donc à cette maison F et G. Il y a d'autres solutions, en tout cas. On va les voir dans un instant. Restez avec nous. On fait une deuxième pause musicale. On se retrouve juste après dans la grande librairie du patrimoine.
It was a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding behind those eyes? Know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling? I sing it to survive. You're looking for a miracle, the kind that science you
Bonne nouvelle pour tous les fans de U2, qui est le groupe irlandais mené par Bono, qui est de retour avec cette chanson Your Song Save My Life. Alors ne cherchez pas l'album, ça sera sur la bande originale du film Tous en scène 2, qui sortira dans quelques semaines.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Et après la musique, on revient à notre grande librairie du patrimoine en compagnie de Pascal Bossan, qui vient de publier Agir pour le climat, Jean Carassus, son livre Immobilier bâtiment durable, un gros pavé qu'on avait, mais bon, qu'on n'a pas là aujourd'hui en studio. C'est pas grave, on a notre expert ou nos experts pour nous parler justement de cette transition économique, écologique, on en parlait. La finance, on l'a vu encore cette semaine, hein, COP26 qui prend des engagements, qui dit voilà, on va vraiment aider la transition, ça coûte des centaines de milliards, bien évidemment. Tout le monde s'y met. Pascal, on disait, hein, voilà, l'idée et les astuces pour bien mettre son épargne à l'œuvre et aller dans le sens de cette transition. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, pratiquement, l'épargnant en français ? Alors, bien sûr, achetez votre livre, hein. Mais à part ça, il y a d'autres choses. On peut, par exemple, sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, moi j'appelle ça la jungle des labels. C'est pas toujours évident, même pour vous, conseiller en gestion de patrimoine, de s'y retrouver pour trouver le bon produit pour son client ou même pour soi-même.
Oui, c'est vrai que on n'a pas de graduation en fait dans les labels. Finalement, on peut avoir on a un premier filtre. Hein, le label ISR permet d'avoir un premier filtre pour son épargne, mais c'est vrai que si on veut plus d'engagement, on n'a pas forcément accès à l'information. Peut-être que ce sera le cas demain. Je pense que de manière générale, il faut être conscient que vous parliez de la COP26 et des engagements qui sont pris. Je pense qu'il faut être conscient que notre comportement en tant que consommateur, en tant qu'épargnant, il est très important parce qu'il permet de faire bouger les choses de manière indirecte, en quelque part en mettant une certaine pression sur les entreprises dont on est, mm-hmm. dont on est client, que ce soit encore une fois en tant que consommateur ou en tant qu'épargnant. Et donc je crois qu'il ne faut pas minimiser ce rôle qu'on a. On dit souvent qu'on vote avec sa carte bleue. Je crois beaucoup à ça et c'est pareil pour son épargne. Mm. Il ne faut pas se dire finalement qu'à titre individuel, ça aura peu d'impact. Je pense que la somme des comportements individuels peut tout à fait mettre une pression plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui auprès des entreprises, des grandes entreprises.
Je note quand même une petite schizophrénie, dichotomie pour nos jeunes, nos plus jeunes qui sont très appétents, on sait, aux nouvelles technologies, etc. Donc pour l'épargne, ils se ruent sur le Bitcoin, qui est extrêmement polluant pour la planète.
Ouais.
Donc c'est un peu curieux, c'est un peu antinomique, ou peut-être qu'on n'en est pas conscient.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a de la pollution cachée dans les crypto-monnaies. Donc là aussi, je pense qu'il faut en être conscient et essayer d'éviter. Hein. Voilà, au-delà de l'aspect spéculatif.
Bon, il y en a d'autres de toute façon qui vont arriver. J'espère que ce sera plus des nouveaux tokens, des jetons ou des crypto-monnaies qui seront peut-être plus vertes, entre guillemets. l'enjeu, Jean Carassus, pour les bâtiments et tout, donc ces étudiants, même s'ils sont chevronnés dans leur métier, vous nous en parlez tout à l'heure, que vous formez à construire ou à inventer ou à entretenir des bâtiments, des bureaux, etc., de manière plus durable. Là aussi, c'est de la finance, quoi. C'est d'énormes enjeux financiers.
Oui, et c'est contradictoire. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, d'un côté, malheureusement, on peut encore faire de l'argent avec du carboné.
Oui. Et, mais plus que jamais, d'ailleurs, parce que le carbone...
Et donc, il y a des professionnels de l'immobilier qui nous sourient, qui, bien sûr, font des opérations exemplaires de temps en temps, font de très beaux rapports annuels, mais dans les faits, ils ne changent pas vraiment leur pratique. Parce qu'en France et dans le monde, l'acier, le verre, le ciment, c'est très carboné. Il y a des recherches qui sont faites en ce moment pour décarboner ces trois grands produits, mais ils sont massivement utilisés en France et au niveau mondial. Donc on sent bien qu'il y a une tendance lourde qui est négative.
On se bat contre des moulins à vent, ça avance.
Non, parce que en même temps, c'est pour ça que je vous dis que c'est contradictoire, en même temps, les investisseurs disent « j'ai pas envie de prendre n'importe quel risque ». Et ils sentent au niveau des pouvoirs publics, au niveau de certains consommateurs, encore trop minoritaire. Pascal a raison d'insister sur le fait que les consommateurs peuvent jouer un rôle pour faire pression sur les professionnels. Ils l'ont fait sur l'alimentation bio, c'est clair. Il y a eu un mouvement très fort à partir des problématiques de la santé. C'est plus lent à partir des problématiques du climat. Et donc, là, les professionnels, on le voit effectivement au niveau de la COP26, avec le mouvement animé par McCartney. McCartney, c'est l'ancien président de la Banque d'Angleterre, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui, en 2015, avait dit aux grands investisseurs « faites gaffe, vous êtes en train de prendre des risques ». Et il avait cité les trois grands risques. C'était le risque physique, vos immeubles risquent d'être attaqués par des événements climatiques. C'était le risque de transition, parce que toute cette transition, il y a plein de risques. Il y a des réglementations, il y a des mouvements des prix de l'énergie, c'est très difficile à gérer. Et puis, il y a même un risque de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, vous risquez le procès. Pour l'instant, c'est plutôt les États qui sont attaqués, mais il y a eu un certain nombre d'entreprises, notamment dans le secteur pétrolier, qui commencent à être menacées par des actions en justice.
Class action,
voilà, nous concerne. Notamment aux États-Unis, vous avez raison de le rappeler. Et donc, à partir de là, on sent bien que un certain nombre, en tout cas de professionnels, ça bouge. C'est bien l'engagement qui a été pris à Glasgow, là, sur l'association de la finance, c'est très positif, mais à condition qu'on mesure réellement l'abandon progressif de l'investissement, du financement et de l'assurance dans les énergies fossiles. Tant qu'ils continuent d'une manière ou d'une autre à financer, à investir et à assurer des investissements dans l'énergie fossile, ils font fausse route. Et c'est très difficile parce qu'il va falloir qu'ils acceptent une certaine baisse de la rentabilité pendant un moment. C'est complexe.
Oui, et même rénover, ça coûte cher. Il vaut mieux peut-être garder, je reprends votre thème, l'épave thermique, encore quelques années, comme on fait avec certains bâtiments, plutôt que de lancer de coûteux travaux de rénovation. Mais ça va être nécessaire. Et puis, on a vraiment le sentiment aussi, Jean Carassus, que, comme vous le disiez, c'est un problème de générationnel et que, voilà, le temps fait qu'à un moment, on va passer à autre chose. Et on espère, de toute façon, c'est assez vital si on veut atteindre des objectifs ambitieux, zéro émission carbone en 2050. Pour le bâtiment aussi, c'est un sacré défi.
Oui, alors là, c'est énorme. Parce que quand vous regardez les statistiques de la stratégie nationale bas carbone, entre 1990 et 2015, le secteur bâtiment, appelé comme ça dans la stratégie nationale bas carbone, a baissé ses émissions de 4% en 25 ans. Et les objectifs du Parlement, de l'État, de la neutralité carbone en 2050, nécessitent qu'entre 2015 et 2030, ça baisse de 49%. Donc on a baissé de 4% en 25 ans et il faut baisser de 49% en 15 ans. Sinon, on ne va pas vers la neutralité carbone, on raconte des histoires, on amuse la galerie. Donc effectivement, ça suppose une transformation en profondeur de toutes les pratiques professionnelles et d'utilisation des bâtiments.
Je renvoie à votre livre, Jean Carassus, en tout cas, Immobilier et bâtiment durable, pour en savoir plus, hein, pour tous ceux qui sont intéressés, passionnés pour le sujet. Alors, c'est 564 pages hein, d'informations, d'exemples là aussi, donc une somme, hein, on trouvera forcément son bonheur dans les différents chapitres. Pascal, un grand merci également, Agir pour le climat, qu'on peut montrer, un petit ouvrage, en plus, 100% des droits d'auteur, on le répète, sont reversés à l'association Little Citizen for Climate. Là, c'est très pratico-pratique.
Agir pour le climat en famille, ça peut tout à fait être une idée de cadeau pour Noël.
Mais bien sûr, on arrive, c'est la période. Oui, ça fera peut-être moins plaisir, votre livre, je suis désolé. En tout cas, celui-là, il est parfait pour les fêtes qui s'annoncent. Un grand merci à vous deux. Merci à Sophie Bernard qui a préparé cette émission, à Baptiste Pouchard qui l'a réalisée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau... pas la semaine prochaine, parce qu'on aura une rediffusion, mais en direct dans deux semaines pour un prochain Hebdo Patrimoine. À très bientôt.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.